nous allons pouvoir commencer cette table ronde. Donc, alors, tout d'abord, vous avez pu remarquer que Cassandra O'Donnell n'est pas là. Malheureusement, elle ne pouvait pas être avec nous ce soir. Elle devait partir un petit peu avec des problèmes de transport. Donc, nous regrettons bien de ne pas l'avoir. Mais, de toute façon, nous avons ici les trois autres auteurs. Et pour une table ronde qui s'intitule « La fantaisie, lecture, plaisir », effectivement, c'est un grand plaisir de lecture. Tout d'abord, nous avons Marie Brennan, qui a écrit « Une histoire naturelle des dragons » à la Talente. À côté, Romain Huissier, qui est un auteur qu'on avait connu d'abord dans deux romans qui se situaient dans l'univers des super-héros bien français d'Hexagone Comics, et qui, là, nous donne un roman d'urban fantasy que vous allez voir d'ici deux minutes lorsque le libraire va l'amener, qui s'intitule « Les 80 frères ». Et à côté de moi, Thomas Andrew, qui s'est fait connaître avec sa série « Drake Carter », où il y a déjà deux volumes, « Cupidon mortel » et « Psyché mortel », et une série qui est un spin-off de Drake Carter, qui sont « Félix mortel » et « Ernest mortel ». Alors, sans plus attendre, je dirais que le titre, donc, c'est « La fantaisie de lecture, plaisir ». Et c'est vrai que c'est toujours un plaisir de lire de la fantaisie. Ma première question à nos trois auteurs sera, est-ce que vous lisiez de la fantaisie avant de devenir auteur? Et est-ce que ce sont ces lectures de fantaisie qui vous ont donné envie d'en écrire vous-même?
Pour moi, j'ai toujours été baigné par tout ce qui était urban fantasy, fantasy, fantastique. Le premier film que j'ai vu et que j'ai revu il y a quelques mois avec plaisir, c'est La mort brésilien, avec Meryl Streep et Bruce Willis. C'est toujours un plaisir de regarder ce film. Je suis toujours mort de rire, parce que c'est un humour noir, humour classique que j'adore et que j'affectionne. Donc, ça a toujours été ça pour moi. Et ensuite, quand j'étais ado, voilà, je me suis tapé les Tolkien, je me suis tapé plein de séries comme ça qui existaient à l'époque. Et après, au niveau de l'urban, je suis tombé, alors c'est dommage qu'elle soit pas là parce que je l'aurais fait rougir, je me suis tapé les Rebecca Kine de Cassandra O'Donnell, et je me suis dit, tiens, enfin voilà une auteure française qui nous met vraiment de l'urban à la sauce américaine, mais avec de l'humour français. Et voilà, je suis retombé dedans avec plaisir. Et au niveau de la fantaisie, c'est le maître incontesté pour ma part de la fantaisie française, c'est Pierre Pével, avec Les Larmes du Cardinal, où j'ai été subjugué par sa plume. Je l'ai encore redit, parce que j'étais en signature à côté de lui. Et je l'ai encore redit en me disant que voilà, pour moi, c'était l'une des grandes révélations, parce que je n'aimais plus du tout la fantaisie. Et quand on a un roman de KPDP avec des dragons, la première scène de Pierre Pével, c'est on a Richelieu qui arrive sur le perron. Il était en train d'écrire une missive et il dit et un dragon se posa sur le bras de Richelieu. J'ai fait oh le salaud, il est fort. Donc ce qui fait que j'ai lu les trois tomes et voilà, je continue à suivre les aventures de Pierre Pével, parce que c'est absolument extraordinaire. Donc ouais, ça a été pour moi les faits marquants de ma redécouverte de la fantaisie et du fantastique.
Alors moi, de mon côté, c'est peut-être un peu différent. On peut rattacher un peu le thème de littérature fantasy, littérature plaisir, à finalement la culture populaire, la littérature populaire, ce qui se lit bien, vite, agréablement. Donc moi, ma jeunesse, j'ai beaucoup baigné dans le cinéma populaire, donc le cinéma notamment de Hong Kong, dans les comics de super-héros, donc vraiment une forme de littérature entre guillemets, d'aventure qui entraîne son spectateur, son lecteur dans les univers, qui les happe avec beaucoup de plaisir. Je me suis un peu construit là-dessus, je suis venu sur la fantasy littéraire plus tard, quand j'étais déjà adolescent, étudiant. J'ai découvert Le Seigneur des Anneaux à 20 ans. Mais oui, après je me suis bien rattrapé, j'en ai lu beaucoup. J'ai surtout lu des auteurs français, puisque je me disais, j'ai toujours voulu être un peu écrivain. Donc je voulais connaître ce que font les Français dans ce genre-là, qu'est-ce qu'ils apportent comme originalité, comme vision, en alternant bien sûr avec les grands classiques américains comme Le Chacun connaît, Le Trône de Fer, L'Assassin Royal, etc. Donc j'ai tété un peu ces diverses influences qui se sont mélangées avec tout ce que je connaissais de ma jeunesse, le cinéma d'action hongkongais, les comics de super-héros, et c'est comme ça un petit peu que moi j'ai accouché de mon propre style, de ma propre façon d'amener le lecteur dans mes univers, en espérant leur donner le plus de plaisir possible, puisque c'est le thème de la conférence.
When I was a child, I didn't pay a whole lot of attention to what genre I was reading. I didn't actually think in those terms, which I think is true of many children. I just sort of read anything that looked interesting, which after a while did gravitate toward fantasy. But for example, when I was young, one of my favorite books was called The Secret Garden, which isn't a fantasy novel, but tell that to me at the age of 7. Any reference to magic in the story, I believed it really was magic. And one of my favorite authors when I was growing up was a British writer named Diana Wynne Jones, who some of her stuff is urban fantasy, some of it is set in other worlds, some of it is both at the same time. And I think she's the person who made me want to be a writer. Specifically, she has a book called Fire and Hemlock. That's the one that made me say, I want to do this. And that is an urban fantasy. And I think just the sense of wonder and possibility that it gave me stayed with me for life.
Alors, je pense que quand j'étais enfant, vraiment, je ne pensais pas en style de roman, en genre. Je voyais pas les choses comme ça. C'est vrai pour beaucoup d'enfants. Je lisais tout ce qui me paraissait intéressant. Et après, ça a fini par graviter autour de la fantasy. Mais par exemple, moi, j'ai beaucoup aimé quand j'étais enfant un livre qui s'appelle The Secret Garden, le jardin secret. Et franchement, c'est pas vraiment de la fantasy, mais vous dites ça à moi quand j'avais 7 ans, pour moi, si, c'était magique quand même et c'était de la fantasy. Mais vraiment, la personne qui m'a donné envie d'écrire, c'est une auteure britannique, Diana Wynne Jones, qui écrit de la fantasy urbaine, des fois qui vous fait voyager dans d'autres mondes et parfois les deux. C'est vraiment grâce à elle que j'ai voulu devenir écrivain. Et surtout à cause du livre Fire and Hemlock. C'est vraiment ce livre qui m'a montré toutes les possibilités qu'il y avait dans l'écriture et qui m'a donné envie de devenir écrivain.
Écoutez, merci, ça nous a permis comme ça de voir un petit peu qu'est-ce qui vous a formé. Alors ce qui m'a frappé, c'est que, une partie bien entendu du plaisir de la lecture de fantasy, c'est de découvrir des environnements complètement différents d'une autre. Or, là, ce qui est très frappant chez tous les trois, c'est qu'en fait, vos univers sont ancrés dans le réel, puisque justement, ça se passe à New York. Vous, Romain Duissier, votre roman se passe à Hong Kong. Quant à vous, Marie Brennan, entre le Sirland de Lady Trent et Indian, il y a guère qu'une syllabe de différence. Donc, pourquoi avoir choisi des pays qui sont d'abord très proches de notre monde actuel et pour deux d'entre eux qui sont de notre monde actuel, et ensuite pourquoi ne pas avoir pris donc des univers complètement inventés à la place.
Pour moi, j'ai toujours été baigné par l'univers des séries américaines des polars. J'adore Castle, polar comédie en série. Chef, notre Mentor, War Arles, ce qui fait que pour moi, quand j'ai commencé à écrire Cupidon Mortel, j'avais d'abord essayé de le faire sur Paris. Donc dans une vue que je connaissais, parce que j'avais Paris, et sauf qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ça a été un truc, la façon d'écrire, la façon de penser, je me suis dit, quelque chose qui n'allait pas. Et donc je me suis transposé sur New York après un épisode de Castle, tout simplement. Et j'ai modifié le premier chapitre, le deuxième, et j'ai dit, ah ouais, ça claque, bien comme il faut. Donc j'ai voulu garder ça. Et ce côté réel, je n'ai pas imaginé, tout simplement parce que j'avais envie que les gens se disent, voilà, ça peut être n'importe qui, ça peut être, ça peut être moi, ça peut être mon voisin, ça peut être, de se dire que, on peut croiser des vampires, des loups-garous, on peut croiser des fantômes, des firmes, des sorties, pour croiser tout ça dans notre monde réel. Après l'imaginaire, il faut vraiment installer tout ça, il faut vraiment avoir une bible. Et j'avais pas envie de. Après, je suis très bien comme garçon, et j'avais pas envie de passer 3 ans à écrire une bible de 800 pages sur ta capacité de le décor va être comme ça, je ne m'appelle pas Top Ken ou Marie. Donc ce qui fait que j'avais vraiment envie de faire quelque chose dans la facilité comme on connaît ce que je suis.
Moi de mon côté, Hong Kong en elle-même, c'est vrai que c'est une ville réelle qui existe, mais quand on l'étudie de près, on a presque du mal à y croire. Parce que c'est un monde en elle-même, c'est presque un pays, c'est une ville chinoise, mais c'est presque un pays. C'est 10 millions d'habitants dans un très petit territoire, c'est la partie du monde la plus densément peuplée. Et surtout, c'est la ville de tous les extrêmes. C'est-à-dire que ça a été une colonie anglaise pendant 100 ans, donc elle est très occidentalisée. Mais en même temps, elle est très profondément chinoise. Donc, c'est un vrai pont entre l'Orient et l'Occident. Également, elle est très tournée vers le futur. C'est une place financière extrêmement importante. C'est un paradis libéral, typiquement anglo-saxon, presque, avec des millions de dollars qui transitent dans diverses affaires chaque jour. Et pourtant, ils sont extrêmement, pas superstitieux, mais croyants, en fait, croyants dans leurs antiques traditions, leurs divinités, les dragons, les esprits de leurs ancêtres. Et vous pouvez voir un homme d'affaires qui va sortir de l'immeuble de la Bank of China, vraiment un homme en costard cravate, qui signe des contrats à plusieurs millions, et puis qui va se rendre dans un petit temple taoïste, qui est dans le même quartier, à l'ombre de ces immenses buildings, et qui va se faire tirer une prédiction par un devin, et qui pour savoir s'il doit signer ce contrat ou pas. Donc c'est des gens qui ont encore ces croyances, du fait que le surnaturel dans cette vie émerge naturellement, puisque... c'est le folklore chinois, c'est la religion populaire qui existe encore. Donc moi, je le rends réel dans le roman, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Il y a vraiment des dragons, il y a vraiment des esprits, vraiment des fantômes. Mais dans la vraie Hong Kong, on peut vraiment croire qu'on peut les croiser. Tout ce bestiaire surnaturel, puisqu'il y a des temples, il y a des hôtels, il y a des devins, il y a des géomanciens, il y a du feng shui. Donc effectivement, cette ville peut sembler presque, si elle n'existait pas, il faudrait presque l'inventer. Un monde de fantaisie moderne comme celui-ci méritait en tout cas d'être mis en valeur.
What Thomas said about this sense of possibility that it could be a thing around you, and Roman said that as well, that is exactly one of the things I love about urban fantasy when it's done well, and when it's done badly, it throws me right out of the story. The first X-Files movie, the beginning of it takes place in North Texas and in the city of Dallas. That's where I grew up. That isn't Dallas that you see in the movie. And since the entire idea of the X-Files is supposed to be, this could really be the secret world you don't know about, I'm sitting there going, no, it isn't. So if you go for that, it's great, but you do have to get it right sufficiently that the reader doesn't get thrown out of the story saying, no, I no longer believe in this possibility. But I love that kind of thing. In particular, when it is set in a specific real location like New York or Hong Kong, the way that you can take places that exist in that city or things that, like activities in a city, and add another layer of meaning, like inscribe extra story onto them above and beyond what's already there. Like maybe it's the Statue of Liberty. Well, the Statue of Liberty has history, but maybe also the torch is some kind of magical beacon. And now every time I look at the Statue of Liberty, I see an extra story. And I love that. So I did that with London in the Onyx Court books. I had a lot of fun connecting things to the actual geography of London and specific places. And then with the Memoirs of Lady Trent, which they're not quite urban fantasy, they're not quite what we in English would call a secondary world, like something like Tolkien, where it's an entirely different world. It's sort of world and a half. It was a chance to sort of see different possibilities with our own world, to say, well, I can make the history and the circumstances a little bit different without having to do all the work of saying, all right, and how did it get different? Because, you know, having to work out those changes in real history, I'd have to think up several hundred years up until that point, here's how it was different. Easier to just say, it's a different country, it's Skirland instead of England. Not quite different, but enough for me to say, and things are different, like they're all Jewish instead of Christian. So, I like being...
We're going to have to stop at some point.
Yeah.
Sorry.
I like being able to play with it.
Okay, hold on. Play with it. Okay.
Alors effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce que Thomas a dit tout à l'heure, le fait que on envisage de nouvelles possibilités dans ce qui nous entoure, et Romain l'a dit également. Mais pour ça, c'est pour ça que c'est génial l'urban fantasy, mais il faut que ce soit bien fait. Je vais vous donner un exemple. Le premier film des X-Files, ça se passe au Texas, à Dallas. J'ai grandi là-bas. Et j'ai regardé le film et j'ai dit bon, donc déjà c'est pas Dallas, c'est pas possible. Donc du coup, bah forcément, j'ai complètement rejeté l'histoire parce que le début était faux. Donc si vous voulez faire ça, faut vraiment rendre les choses réalistes pour que les gens y croient. Mais personnellement, j'aime vraiment quand on fait ça, surtout avec des vrais endroits comme New York ou Hong Kong, se servir d'endroits qui existent déjà et leur rajouter une couche supplémentaire. Mais par exemple, si on prend la Statue de la Liberté qui a déjà son histoire, si on imagine que la flamme de la Statue de la Liberté a un pouvoir magique, ben ça rajoute encore quelque chose d'autre. Et du coup, quand on regarde la Statue de la Liberté, ben on pense plus pas que à l'histoire, mais aussi à l'histoire magique derrière. Je me suis beaucoup amusée à faire ça par rapport à Londres dans la série Onyx Court. C'était vraiment très drôle à faire. Et en ce qui concerne les mémoires de Lady Trent, alors c'est pas vraiment de la fantasy urbaine, c'est pas vraiment un monde secondaire comme on peut en avoir dans Tolkien. C'est un monde et demi, c'est un peu entre les deux. Mais vraiment, je trouve que c'est une chance de pouvoir comme ça étudier ces différentes possibilités, de montrer que l'histoire est différente sans avoir à expliquer comment on a évolué jusque-là, de devoir dire sur 100 ans voilà comment ça a évolué. C'est pour ça que c'est beaucoup plus simple de prendre un pays qui s'appelle Scotland au lieu de England, on change un tout petit peu le nom, on sait que c'est différent, les gens sont juifs et non pas catholiques, voilà, on joue là-dessus, on peut changer un petit peu, et moi j'ai trouvé ça très drôle à faire.
Je remonte ce que tu as dit, tout à fait ça. Paradoxal, c'est que j'ai jamais eu la chance d'aller à New York. Il y a un outil qui est formidable, ce qu'on appelle, c'est Google Maps. Donc ça permet de visualiser. Et j'ai plein d'amis en fait qui vont à New York, et c'est chanceux, ouais, c'est poli. Et ce qui fait qu'ils m'envoient des photos assez régulièrement de New York, donc c'est-à-dire qu'ils m'abreuvent de photos, notamment dans Cupidon, la scène finale se passe à la Grande Librairie de New York. Et donc j'ai un ami auteur, Frédéric Mars notamment, qui est allé à New York et qui m'a mitraillé la bibliothèque de l'Orange en travers.
On m'a dit quelque chose pour toi.
Il m'a envoyé quasiment 200 photos et donc il m'a abordé tout ça. Et ce que tu disais justement avec la Statue de la Liberté, j'ai fait exactement la même chose avec un. Il m'expliquait qu'il y avait un marché qui existait. Dans un coin de New York où on pouvait tout tâcher, alors c'est une sorte de marché de plus, voilà. Et je me suis inspiré de ça pour fabriquer ce qu'on appelle le McDo. Alors rien à voir avec l'enseigne de burger, mais c'était le marché des activités surnaturelles et de la domination occulte. Et ce qui fait qu'on pouvait tout trouver, des pattes de lapin ensorcelées, on peut trouver de tout et n'importe quoi, je pense, sur l'univers magique. Et voilà, c'est justement ça qu'on peut rajouter cette bouche de surnaturel et de
fantasy qui caractérise.
Et voilà, c'est ça qui nous fait qu'il peut être à modifier l'environnement.
I don't know what I would do without the internet to help me research places in the real world that I have never been, some of which I never want to go. The last book of the memoirs takes place in the equivalent of the Himalaya Mountains. I don't like the cold. I am never going there, but I can look at pictures.
Alors oui, effectivement, je ne sais pas ce que je ferais sans Internet, parce que effectivement, quand je veux parler d'endroits où je ne me suis jamais rendue et parfois où je n'ai pas du tout l'intention d'aller, pour vous donner un exemple, dans mon dernier roman, ça se passe dans les montagnes de l'Himalaya, j'aime pas le froid, donc techniquement, j'irai jamais. Par contre, regarder des photos, ça me va.
Vous êtes allé en
Hong Kong pour faire une recherche. Utilisation intensive de documentation, Google Maps, Google Street, et puis des sites tout à fait officiels, puisque Hong Kong est une cité vraiment à la pointe du progrès. Je faisais des recherches sur la police de Hong Kong pour avoir les bons grades. Ils ont un site, il y a tous les organigrammes de tous leurs services, il y a même le formulaire pour postuler. C'est assez fabuleux. Mais j'ai quand même un couple d'amis expatriés qui me disent, eux m'aident à capter l'âme de la ville en fait. Ils me disent ce qu'on ressent en Hong Kong, comment on vit la ville, comment on existe là-bas, quels sont les sentiments que cette ville infuse dans ses habitants. Donc ça me donne la partie émotionnelle. Grâce à la documentation, j'ai tout ce qui est technique. Grâce à ses amis, j'ai l'émotion. Et j'essaye de les combiner. Donc
visiblement, j'y arrive assez bien. Parce que tout à l'heure, j'ai un lecteur qui, lui, a vécu à Hong Kong, qui a lu mon roman, et qui m'a demandé si j'y avais vécu aussi, parce qu'il connaissait complètement l'endroit où il avait vécu. Donc, c'était très gratifiant pour moi, en tout cas. Le pari était réussi. Merci, Internet.
Thank you, the Internet.
Et c'est vrai, parce que je m'étais fait la réflexion en lisant votre roman, et j'ai eu la chance d'aller plusieurs fois à Hong Kong et je me suis dit, il a dû y passer un sacré bout de temps pour avoir capturé l'essence de la ville comme ça. Je me suis fait la même réflexion pour New York. Là aussi, j'ai eu la chance de vivre un certain temps. Je me suis dit, tiens, voilà un autre New Yorkais d'adoption. Quant au Sri Lanka, vous avez bénéficié, Marie Brennan, d'une machine à voyager dans les univers parallèles. Parce que là aussi, c'est totalement réel. On a l'impression que vous avez vécu dans l'Angleterre victorienne et que vous nous faites part de votre expérience.
I did go to London a number of times for the previous series, The Onyx Court. I made a research trip each year for each book, so that part I did have the direct experience of it. And it is wonderful to have pictures, but like Waman was saying, you need somebody who has been there, or you need to go there yourself for the things that don't show up in the pictures. So the English part of it, I had a lot of experience to draw on. And I'm lucky that I've also traveled quite a lot in my life. So I've never been to Romania, but I have been to mountainous areas. So the country that Isabella goes to in A Natural History of Dragons, I could draw on some experiences of being in Colorado. It's not Romania, but it's mountains. It helps. Or in the second book, I sent her into a tropical swamp. And I have been to Costa Rica. So there's three or four paragraphs in the book that are me just channeling my own experiences of being in that kind of environment. So it does help to have a first-hand experience, or failing that, to read somebody else's first-hand experience that describes it very vividly.
Alors en ce qui concerne Londres, je m'y étais pas mal rendue pour écrire la série Onyx Court. J'y allais une fois par an pour faire des recherches pour les romans. Donc déjà ça c'était pratique parce que techniquement, les photos, c'est bien, mais effectivement, il faut soit connaître quelqu'un qui y est allé, soit y aller vous-même pour vraiment s'imprégner de l'atmosphère. Donc, pour ce qui est de l'Angleterre, ça allait. Après, j'ai eu la chance de beaucoup voyager. Donc, dans le premier roman, Lady Trent se rend dans un pays qui est très semblable à la Roumanie. Alors, je me suis jamais rendue en Roumanie, mais j'ai déjà voyagé dans des endroits très montagneux. Je suis allée, par exemple, au Colorado. Alors, certes, le Colorado, c'est pas la Roumanie, mais au moins, c'est quand même des montagnes, donc ça peut aider. Et du coup, dans le deuxième roman, elle se rend dans des marais tropicaux. Personnellement, je me suis rendue à Costa Rica, donc ça m'a permis également de me servir de cette expérience et de la mettre dans le roman. Donc vraiment, ça aide beaucoup d'avoir quand même fait une expérience similaire soi-même ou d'avoir lu quelqu'un qui en fait un récit très détaillé.
Là, on vient de se concentrer beaucoup sur l'aspect réel, mais peut-être pour les personnes ici pas encore lu vos romans, ce qui est à grand tort. Peut-être pourriez-vous expliquer un petit peu comment chacun vous avez bâti cet univers, ou à partir de villes et d'endroits qui sont réels, quelle est la part de décalage qui fait que on termine en pleine
Pour ma part, pour la première saga, j'en ai deux, Ray Carter. J'avais commencé à écrire, donc je savais que ça allait partir en fantasy, en fantastique, et j'avais tout un speech dans ma tête. Je savais qu'il devait devenir un fantôme. Comment, pourquoi, j'en avais strictement aucune idée. Parce que je trouvais ça fun, un fantôme. Mais sans déconner, un fantôme, c'est cool. On se dit, on peut aller partout, on peut faire peur aux vieilles dames, on peut effrayer des animaux, on peut visiter son pire ennemi pour essayer de trouver quelques dossiers pour histoire de le faire tomber. Je pense que Mme Clinton serait contente d'aller nous surprendre. Mais faire ce genre de choses, je me dis, ça va être pas mal. Et donc, je suis parti, j'ai commencé à écrire, etc. Et au bout d'un moment, comme je sais qu'il allait mourir le 14 février, ouais, c'est un idiot. Et ce qui fait que je me suis dit, un bon vol plané d'un 9e étage, ça c'est fun. Au moins comme ça, c'est pas courant au niveau des héros, et donc je le fais défenestré. Et donc il se retrouve sur le bitume avec la tête à 2 cm d'une bouche bouche d'eau, il aurait pu mettre 1000 points de plus sur son compte. Et donc ce qui fait que il se regarde, il se lève, il se regarde, il fait « Ah ben voilà, je suis mort. Bon, je suis inconscient, qu'est-ce que je fais maintenant ?» Et donc c'est à partir de là qu'on arrive dans le fantastique, et ce pauvre Drake va subir un lot d'emmerdes, il va avoir des boulets autour de lui, il va avoir un lycanthrope complètement bodybuildé, mais avec deux culs. Il va avoir une maîtresse vampirique qui est une Christian Grey au féminin, qui préfère s'éclater dans son donjon que d'aider le héros. On va avoir un libraire, j'ai rien que les libraires, surtout à la vue, qui sont géniaux. Des libraires, un libraire qui est une mort phénoménale, mais il doit avoir 8 grammes d'alcool dans le sang pour trouver le bon livre. Voilà, bah, il est irlandais, donc en même temps, j'ai envie de dire, c'est dans leur gène. Et on va avoir un sorcier qui ne sait absolument pas du tout dans cette sorte, donc à chaque fois, il est froid. Donc, mais d'un autre côté, c'est ça qui fait vraiment la richesse de mes deux sagas, c'est que le héros va avoir une ribambelle de losers autour de lui, parce que justement, je trouve que l'univers fantastique en ce moment, on est trop pris au sérieux, il faut qu'il y ait un méchant, il faut qu'il y ait un héros, il faut qu'il y ait quelque chose de rationnel, il faut que ça soit, voilà, c'est bizarre de parler rationnel quand on parle de fantastique. Mais il faut que ça soit un peu un livre de fantasy en ce moment, ou fantastique. J'ai l'impression que c'est un peu un mélange de James Bond, c'est-à-dire il y a le héros, il y a le méchant, on doit castagner le méchant, le héros doit forcément gagner. Et en plus, s'il doit se taper la petite copine entre temps, c'est génial. Moi, justement, j'avais envie d'autre chose, j'avais envie que ça soit un héros qui galère en amont, je voulais qu'il y ait qui galère au niveau de tout ça, et je me suis dit, voilà, on va rajouter beaucoup de contraintes à ce pauvre garçon au niveau de Drake Carter pour qu'il essaye de regagner au-delà. Mais c'est vrai que, c'est un peu bizarre de parler rationnel quand on parle de fantasy.
Alors moi, comment j'aime la fantasy dans cet univers, dans cet Hong Kong réel. Alors en fait, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce fantastique existe déjà à l'état de croyance, et je suis juste parti du principe que c'était vrai, tout simplement. Il y a vraiment des rois dragons qui règnent sur des cours des miracles occultes dans certains quartiers, sur les docks et tout ça, qui font des trafics d'âmes ou de créatures surnaturelles. Il y a vraiment des fantômes, malheureusement, des gens qui ont été tués par les triades qui hantent leurs endroits. Il y a vraiment des ce qu'on appelle des fatsi, c'est-à-dire des magiciens taoïstes, car il en existe vraiment à Hong Kong, sauf que les liens ont vraiment des pouvoirs. Alors, peut-être que les Hongkongais pensent que les leurs ont aussi des pouvoirs, mais les liens, c'est très visuel, c'est très visible, et il n'y a aucun doute. Mon héros, mon narrateur principal, est vraiment un exorciste chinois, c'est-à-dire qu'il aide les fantômes à passer dans votre monde, il castagne les démons à coups d'arts martiaux, il va cartonner des zombies avec ses pistolets à balles en tête de bois de saule. Donc j'ai décidé de porter en fait ces croyances à leur pinacle, quoi, vraiment, et de mélanger ça avec le côté spectaculaire du cinéma de Hong Kong, avec des arts martiaux, des fusillades, des poursuites, pour que ce soit dynamique et que
ça accroche le lecteur, quoi. Hein, c'est justement du plaisir de suivre les aventures de ce héros dans cet univers. Alors je tombe peut-être un peu dans beaucoup de travers de mon collègue, c'est pas grave, j'ai un héros, il a des méchants, il leur casse la gueule. Il se tape sa copine mais il le fait en Chine.
Team Pierre, t'inquiète pas,
il le fait en Chine avec des techniques chinoises, des pouvoirs chinois, donc il y a un peu d'exotisme dans ce canevas assez classique, on va dire.
Et il se fait de grands gueuletons à chaque fois pour se remettre.
Hong Kong est la ville du monde où il y a le plus de restaurants par habitant, et tout le monde mange dans les restaurants là-bas. Effectivement, mon héros a toujours besoin de retrouver son énergie. Je décris les plats en long, en large, en travers pour donner faim au lecteur.
What makes mine fantasy? The dragons. and in some ways, the dragons are almost the only fantastical thing in there, because there is no magic, really. Not in any overt way that we think of in fantasy. People in the story believe in magic the same way that people believe in magic in the real world, and they mean different things by that. But the dragons themselves, they're not magical. They're natural animals, at least mostly so. They can do things like breathe fire or ice on people. And I actually had one reader come up to me at a book signing and say he had worked out actual, like, plausible ways for that to happen biologically, and I should have written down what he told me, because I haven't answered those questions. I just said, whatever, and he had answers, so I should have written them down and used them. But the other thing that I put in, because it's a part of the kind of Indiana Jones pulp adventure feel, is that there was this ancient civilization that is left behind ruins and a mysterious language that nobody can read. It's part ancient Egypt, it's part the lost continent of Atlantis, because I felt like I needed something that would be seen as wondrous by the people in the world, even if it's not strictly magical.
Alors, moi, ce qui fait que c'est de la fantasy, c'est les dragons. C'est vraiment le seul aspect fantastique du roman, en fait, parce que les dragons en eux-mêmes ne sont pas magiques au sens où on l'entend dans la fantasy. Dans le roman, les gens croient à la magie comme nous pouvons y croire. Donc les dragons ne sont pas du tout magiques. Ce sont des animaux naturels qui peuvent cracher du feu ou de la glace. Et d'ailleurs, j'ai déjà rencontré un lecteur qui m'avait dit qu'il avait une explication plausible biologique de comment ce serait possible pour les dragons de cracher du feu. Je m'en veux beaucoup, j'ai pas pris de notes, parce que pour moi, en fait, dans le roman, je dis juste, voilà, il crache du feu et puis c'est tout. Lui, il avait des réponses, donc je regrette un peu. Et sinon, étant donné que je voulais faire une aventure un peu à la Indiana Jones, il y a une civilisation antique avec des ruines et une langue qu'on ne parle plus, pour laquelle je me suis inspirée principalement de l'Égypte antique et de la cité perdue d'Atlantis, parce que je voulais un élément aussi qui puisse fasciner les gens dans le roman, sans un aspect forcément magique, mais quelque chose que les gens trouveraient quand même mystérieux.
Romain Puissier et Thomas Andrew nous ont un peu parlé de leur personnage principal. Alors, dans un cadre de Carter, c'est plutôt l'anti-héros. Johnny Quan, c'est le vrai héros. Marie Brélan, vous pourriez peut-être nous dire aussi un mot de Lady Trent, qui est elle-même un personnage extrêmement fort.
In some ways, it would be odd to describe her as a hero, because she's not out to do anything like that. Her goal in life is to study dragons. She's a nerd. She's a scientist. She does get into trouble and gets out of it and foils some bad guys in the process. Yes, she's someone who is just obsessed with dragons. She's a scientist. She wants to understand them. And she has an odd combination of a strong sense of self-preservation and a complete lack of it at the same time, because she will do very dangerous things, but always with a great deal of, all right, well, I'm going to go risk my life now and I'll plan for that. So she's very pragmatic about it at the same time.
Alors en fait, en ce qui concerne Lady Trent, c'est un peu bizarre de la qualifier de héros, je ne dirais pas ça. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui veut faire des recherches sur les dragons. C'est une scientifique, la bonne scientifique à lunettes, enfin comme on imagine le scientifique nerd, je sais pas trop. le geek. Donc elle rencontre des problèmes. Parfois, au passage, elle va mettre à mal des méchants. Mais vraiment, le principe, c'est juste son obsession pour les dragons. Elle veut les comprendre. Et elle est un mélange assez étrange d'autopréservation et de manque d'autopréservation. C'est-à-dire que elle va parfois se dire « Bon, maintenant, je vais aller risquer ma vie. » Et puis, c'est comme ça. Elle est très pragmatique dans sa façon de penser.
Alors là, on a parlé un peu des personnages principaux. Ce qui rajoute au plaisir de la lecture, c'est aussi bien sûr les personnages qui se trouvent autour, et chacun autour du personnage principal. Et dans chacun de vos romans, je dois dire qu'on a des personnages qui sont assez savoureux. Je pense bien sûr pour Drake Carter à son meilleur ami et qui fait beaucoup souffrir, qui est Tony. Johnny Quan, lui, il a une relation extrêmement complexe avec ce qui est à la fois l'amour de sa vie et une relation un peu très complexe, et puis Lady Trent, elle développe une relation qu'on va découvrir, je pense, plus dans le roman suivant, avec le professeur Lord Ilford, qui lui est aussi le prototype du savant un peu lunaire et monomaniaque comme les hommes.
Ouais, c'est vrai que pour Drake, c'est vrai que Tony, son meilleur ami, je me suis beaucoup inspiré de mon meilleur ami. C'est un dragueur invétéré qui... Alors il s'est calmé, il s'est rangé des voitures quand même. Mais c'est vrai que je me suis énormément inspiré de lui quand on était ado et jeunes adultes, où chaque semaine il se faisait une, deux, trois, quatre, cinq filles. Et voilà, je me suis dit, comment tu fais ? Il me fait la classe naturelle, modeste en plus. Donc voilà, je suis inspiré de lui, et c'est vrai que Tony, alors sans trop vous raconter l'histoire, mais c'est vrai que c'est cette sortie qui s'est balancée de sort. Voilà. Et donc ce qui fait que c'est, même si c'est son meilleur ami, voilà, ça devient de plus en plus un boulet, quoi de chose. Voilà, ils ont tendance, ils ont une petite relation un peu de ce qu'on appelle maintenant, ce qu'on appelle la bro-romance. La bromance, c'est-à-dire c'est une relation fusionnelle entre les deux. Il suffit d'un regard, d'un clin d'œil pour que l'un et l'autre se comprennent. Voilà, dans le tome 2, il y a une scène qui est absolument savoureuse avec une clé USB en forme de Mickey. Voilà, où il suffit d'un seul regard pour que l'autre dise « Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ?» Il dit « Non, mais c'est une clé USB. Oui, non, mais c'est ça. Je souhaite aller dire quelque chose. Non, j'allais rien dire. Non, si tu penses, c'est pire. » Donc voilà, c'est-à-dire qu'ils ont une relation entre les deux qui est assez fusionnelle. Et c'est vrai que Tony fait partie de cet univers de boulet. Mais moi, enfin, après, mon personnage vraiment préféré, mis à part dans la saga principale, c'est Scarlett, la chef vampirique. Je peux lui faire dire tout ce que je pense. Elle est horrible. C'est une légère, c'est tout ce que l'on veut. C'est quand elle a envie de dire merde, elle dit merde. Et franchement, dans son personnage, ça se voit. Voilà, ça fait vraiment plaisir de lui dire, de lui faire dire des choses que je pense ou pas. Et donc, tome 2, c'est Graham, le chef démonique, pareil. C'est un mélange de Moriarty dans la série Sherlock et d'avocat un peu véreux qui essaye désespérément de tenir les démons qui sont autour de lui au calme. Donc, il fait que voilà, ces deux personnages, ces deux méchants sont assez savoureux à écrire et à leur faire penser des choses complètement diaboliques.
Oui, alors si on parle de la relation romantique qu'il y a dans mon roman, effectivement, le héros a un amour d'enfance qu'il a dû quitter pour s'entraîner et devenir un exorciste chinois. Donc il y a une rupture à ce moment de leur relation. Et puis il se retrouve à Hong Kong finalement, mais appartenant en fait à deux univers. Lui, il appartient donc à cet univers, cette partition naturelle, ce Hong Kong occulte, où il risque sa vie, son âme même, dans ses enquêtes. Et elle, c'est une sorte d'artiste, d'égérie, de modèle photographique, peut-être même actrice dans certains films underground. Et elle représente un peu ce dynamisme du Hong Kong réel, moderne. Elle est la représentation de cette ville que le héros de Johnny ne peut pas en fait embrasser, puisqu'il est, lui, il est condamné aux ombres à errer entre les immeubles, entre les temples taoïstes, entre le monde réel et le monde des esprits. Et mais parfois ils se retrouvent, ils savent qu'ils s'aiment, mais ils ont des rencontres fugaces, furtives. Chacun vit des aventures de son côté, mais quand ils se retrouvent, l'évidence de leur amour s'impose toujours à eux. Et ça m'a permis en plus de caser ce que serait un bon roman de la fantasy sans scène de sexe. Donc j'ai casé une scène de sexe entre eux, qui est tout à fait, je veux dire, morale, hein, puisqu'ils s'aiment. Mais attention, c'est une scène de sexe taoïste. C'est-à-dire que dans la tradition taoïste, il y a des exercices de gymnastique sexuelle qui permettent de se renforcer, de renforcer son chi, d'augmenter son espérance de vie, de gagner des pouvoirs. Et donc vous verrez, si vous disiez le roman, que la scène de sexe est taoïste, donc un peu différente de ce qu'on a l'habitude.
C'est bon qu'on puisse dire.
I don't think I actually have any sex scenes in my urban fantasy. Oops.
Alors moi, je crois que j'ai pas de sexe dans ma fantaisie urbaine. Oups.
But A lot of the time when we tell stories about scientists or when we talk about them in history, we talk about it as if it's this lone genius. One person makes these discoveries. And really what interests me is that almost all the time, maybe all the time, those people actually have a community around them. They have colleagues, like other scientists they work with. They have friends who support them and so on. So that's what I tried to talk about with Isabella, is that she can't just say, I'm going to go study dragons, and she's the only person in the story. That's not really how it works. So Jean-Luc brought up Lord Hilford, who's an older man that acts as kind of a mentor, a patron for her. He's got a protege of his own, a man named Thomas Wilker, that Isabella doesn't get along with initially, because they come from different positions but wind up facing similar problems, and it takes them a while to see that. She has support from her husband Jacob. She's got a young woman that she's friends with named Natalie Oscott, who kind of is the first part that you see. You get more of this in later books, of there being other women intellectuals who Isabella becomes friends with. And then in the places that she travels to, there's the people who live there that she has to deal with, and she can't just ignore them, and they're not necessarily very impressed by her. There's a young woman that she deals with in the first book named Dagmira, who's originally supposed to be her maid, kind of, but it doesn't really end up working out like that, and Dagmira is very unimpressed by this woman who has come in from, you know, another country and thinks she knows what's going on. So putting those dynamics around the main character, I think, makes the entire process of what Isabella's doing much more interesting than if it was just, oh, look, she is a genius on her own.
Alors je pense que vraiment souvent dans l'histoire, on a tendance à penser aux scientifiques comme des génies solitaires. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que bien souvent, voire toujours, les scientifiques et les autres chercheurs ne sont pas isolés, ils font partie d'une communauté, ils ont des collègues, ils ont des amis. Et techniquement, Lady Trent ne dit pas « Tiens, j'ai envie d'aller étudier les dragons et hop, j'y vais ». Ça se passe pas comme ça. Donc il y a effectivement, vous avez mentionné Lord Hilford, son mentor, qui a également un autre protégé, Thomas Wilker. Alors, ils s'entendent pas très bien avec avec Lady Trent au début, parce qu'ils viennent pas du tout de la même, de la même société, on va dire, enfin pas de la même place en société, mais par contre, ils ont les mêmes problèmes. Mais il leur faut un certain temps avant de s'en rendre compte. Elle est aussi soutenue par son mari, Jacob. Elle a également une autre amie intellectuelle qu'on découvrira un peu plus dans les romans suivants. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, comme elle voyage, quand elle se rend ailleurs, elle doit bien faire avec les gens qui habitent sur place. Elle n'a pas le choix. Et ces gens-là, elle ne les impressionne pas du tout. Et du coup, il y a notamment, dans le premier tome, une jeune femme, Dragmira, qui doit la servir normalement, mais ça va pas fonctionner tout à fait comme ça non plus, parce qu'elle n'est pas du tout impressionnée par Lady Trent. Et je pense qu'effectivement, toute cette dynamique d'autres personnages autour du personnage principal permettent de montrer que c'est beaucoup plus intéressant que si elle était juste une solitaire qui se débrouillait toute seule.
C'est vrai, Marie Bréna, je repensais en vous écoutant. Vous avez remarqué au début qu'il n'y a pas de scène d'amour dans votre urban fantasy, mais Lady Trent quand même réussit à choquer tous les lecteurs bien pensants dont nous faisons partie en parlant de notre production. C'est scandaleux.
She is shocking by Victorian standards, which means by modern ones, pretty tame.
Voilà, elle choque, mais les gens de l'époque victorienne, nous, ça va.
Maintenant, moi, j'étais très choquée. Cela m'amène, vous voyez, parce qu'on éclate tous de rire, et demain, on va aussi un petit peu aborder le sujet avant, c'est qu'une partie, ce que j'ai noté, c'est qu'une grande partie aussi, plaisir de la lecture de vos romans de fantasy, c'est que l'humour est omniprésent. Alors, de manière extrêmement assumée et ouverte chez votre bande, chez vous, Marie Brennan, mais et peut-être de manière un peu plus insidieuse chez vous, Romain Bussier.
Oui, alors moi, je n'ai pas écrit vraiment dans une optique humoristique. L'humour à l'écrit, je ne suis pas forcément à l'aise avec. Donc j'avais peur de rater peut-être le coup, et je voulais peut-être aussi différencier
l'urban fantasy qui a toujours un petit ton second degré, hein, comme Harry Dresden, tout ça, où ils prennent la partie lecteur, quelque chose d'un, peut-être d'un peu plus sérieux et classique. Mais forcément, le décalage entre le monde réel et le monde surnaturel crée des personnages et des situations qui sont forcément un peu truculentes, quoi. Donc, oui, ils croisent des personnages qui ont forcément un petit côté comique. Par exemple, à un moment, il doit se faire aider par un crabe qui est un général d'une armée d'un roi dragon. Savoir qu'en Chine, les animaux qui accumulent beaucoup de chi, beaucoup d'énergie, peuvent prendre forme humaine et ont des pouvoirs et tout ça. Donc c'est des êtres extrêmement connus, comme les esprits serpents qui se transforment en très belles femmes séductrices. Et les rois dragons qui, eux, vivent dans les mers, ils sont entourés d'une cour de crevettes et de crabes. Ce qui sont énergie du roi dragon deviennent prennent forme humaine, mais ils restent. On voit quand même leurs origines animales, le général crabe, voilà, il est chauve, il a pas de cou, il est très musclé du corps, avec des gros bras barraqués, il a des petites jambes arquées, donc forcément son apparence prête un peu à sourire, surtout que c'est un très puissant guerrier, donc forcément quand il va au combat avec ce physique un peu de presque de nain de fantaisie, ça peut prêter à sourire. Quand on voit les gardes de crevettes qui sont des grands échalas avec des longs bras qui leur arrivent au bout, ça peut aussi prêter à sourire. Mais voilà, j'essaie pas d'induire l'humour volontairement. Il émerge naturellement en fait de ce décalage. Après, effectivement, le héros se fait parfois quelques réflexions sur les aventures qu'il vit, sur les coups qu'il prend, hein, parce qu'il en prend quand même beaucoup dans la tête pendant son aventure. C'est vrai qu'il mange beaucoup. Donc c'est peut-être une sorte de running gag, le fait qu'à chaque fois qu'il s'est fait tabasser, il va se prendre un bon repas pour se remettre. Mais voilà, c'est pas forcément orchestré et voulu comme tel, c'est plutôt. Je laisse ça émerger naturellement. Le décalage entre nous, nos habitudes occidentaux, prosaïques, cartésiens, et cet univers asiatique fantastique avec lequel on n'est pas forcément familier.
Pour moi, je ne pouvais pas concevoir un roman sans qu'il y ait une grosse dose d'humour. Dans la vie, je suis le roi des jeux de mots couraves, je suis le roi du second degré, je suis le roi de l'humour noir, et surtout de l'humour graveleux, je le revendique et j'en ai honte, je suis pas vendu.
Vous en avez vraiment honte?
Non. Non, même pas ça, du tout, je l'assume complètement. Et c'est vrai que Drake a 80% de mon humour, c'est-à-dire qu'il ne peut pas s'empêcher d'avoir un œil sarcastique sur la vie de ses concitoyens. Tout le monde en prend son grade, c'est-à-dire de la bimbo qui décide de se marier avec un vieux riche au moment qu'il a 100 000 dollars sur son compte en banque, c'est bon, ça peut faire partie du jeu. Voilà, donc se permet de faire plein de petites critiques comme ça, mais c'est toujours sous ton humour. Et surtout, j'avais envie que, et c'est une de mes lectrices qui m'a dit ça, j'avais envie que ce soit un livre antidépresseur. Voilà, c'est-à-dire qu'avec les temps du moment, on a tous besoin de rire, on a tous besoin de nous détendre, on a tous besoin de rire aux éclats. Et j'avais vraiment envie que ces romans soient remboursés par la sécurité sociale. Avec cette dose d'humour pour qu'on puisse s'amuser, qu'on puisse oublier son vieux patron qui nous a durant toute la journée, nos enfants qui nous ont tapé sur le système parce qu'ils ne veulent pas se coucher, ou encore le mari ou la femme avec qui on vient de s'engueuler. Donc j'avais envie qu'on puisse se détendre en lisant mes romans et qu'il y ait beaucoup d'humour. Et c'est vrai que dans la deuxième saga d'Annonsbury, c'est exactement la même chose. J'ai un personnage qui a toujours le bon mot, la bonne expression, qui va faire rire avec la situation. J'avais vraiment envie de ça, qu'on puisse s'amuser en lisant mes romans, pas que ce que font les autres confrères soit absolument, chiantissime, ou on va se pendre à la fin du livre parce que c'est tellement tragique et qu'on va s'ouvrir les veines. Mais j'avais justement envie de me démarquer de mes chers collègues qui sont assez brillants, je dois avouer. Et donc, de faire quelque chose de par prise de tête dans lequel on s'éclate, qu'on puisse s'amuser du début jusqu'à la fin.
Yeah, I mean, in real life, people use humor all the time. I mean, in some ways, even as things get worse, people use humor more and more as, for psychology to help them endure things that are bad. So, I have written things that are very dramatic, but never, like, in a entire book that is just written from one end to the other. I wouldn't want to. I've only written, like, I think one story that was straight comedy. Just the entire story was meant to be funny. I was very nervous writing it because I didn't think I could actually make that work. But my natural mode is kind of smartass. So having the characters dropping in lines here and there, they're not being clowns about it, but they will make some kind of comment on the situation. That's my favorite way to talk. It's my favorite kind of character to write. And I think it helps kind of act as almost like salt in food or something, that it will bring out other flavors, because drama to me is more dramatic if you're kind of laughing, you're laughing, and then it's like you've just been punched, and the punch hits harder because of it. Or because I know I'm writing in a very kind of dry Victorian tone, I don't want people feeling like they've been sent to do some homework reading something from the 19th century. Some of the 19th century writers were very funny. But if I want to make that tone work for a modern reader, I have to make sure it's also got those touches of humor that will make them laugh while they're reading through these kind of long sentences.
Alors effectivement, déjà dans la vraie vie, on emploie tout le temps l'humour. Et je pense que au fur et à mesure que la situation s'aggrave, on a tendance au contraire à rire d'autant plus. Ça nous aide à faire face aux difficultés de la vie. J'ai déjà écrit des choses un peu plus dramatiques, mais jamais de A à Z. Le roman n'est jamais triste de A à Z. Je n'ai écrit qu'une seule histoire où c'était de la comédie vraiment tout du long. Mais j'étais très nerveuse parce que je me demandais si j'en étais capable. Mais je pense que moi, ce que j'aime bien, c'est plutôt faire ma petite maline, essayer d'avoir des personnages comme ça qui vont glisser quelques phrases par-ci par-là. Ils font pas les clowns, mais ils vont faire quelques commentaires. Et c'est vraiment ce que je préfère comme façon de faire et du coup comme façon d'écrire. Pour moi, cet humour, c'est un peu comme du sel sur de la nourriture. Ça va aider à faire ressortir le goût du reste. Et je pense que justement, quand on écrit quelque chose de sérieux et de triste, c'est encore pire, parce que si on fait rire les gens, on les fait rire, on les fait rire, on les fait rire, et puis quand il se passe quelque chose, ah bah là, ils se prennent un vrai coup de poing dans le ventre, et là, c'est vraiment, vraiment très triste, ça fait d'autant plus d'effet. Et là, dans le cas de Lady Trent, étant donné que j'écris ça dans un style assez victorien, qui n'est pas forcément le plus léger, je voulais pas que les gens aient l'impression de faire leur devoir à la maison, à lire ce texte du 19e siècle qui était un petit peu pompeux. Alors je dis pas, hein, y a des écrivains du 19e qui étaient pas pompeux du tout, mais ça reste un style particulier. Et pour que ça marche avec un lecteur de nos jours, je pensais qu'il fallait vraiment mettre de l'humour pour que les gens supportent les longues phrases.
Alors, je vois qu'avec l'heure qui est très vite, un petit dernier mot, et ça c'est nous lecteurs qui avons eu le plaisir de vous lire, bon, nous sommes plongés, nous allons plonger pour certains d'entre nous dans vos romans. Est-ce qu'on va avoir longtemps à attendre les suites? Est-ce que notre plaisir va être différé longtemps sur les suites?
Alors, pour Brett Carter, parce que j'ai eu d'autres projets entre-temps, donc il va falloir attendre fin 2016 et 2017. Voilà, donc on pourra me souhaiter sur Facebook pour me dire travail plus. Ensuite, pour Diane Antori, la série JRIV, il y aura un tome en 2017. Pour la petite histoire, je vais faire très rapide. Je vais faire qu'un one-shot pour Diane Antori, sauf que les lecteurs ont été présents, mon éditeur m'a frusté. Et au bout de 3 mois de refus, j'ai abdiqué et donc j'ai fait un deuxième qui est sorti le 4 mai qui s'appelle Hermès Mortel, pardon. Et pareil, j'ai dit non, il n'y aura pas trois deuxième fois, il n'y en aura pas, non, c'est bon, il n'y en aura pas. Sauf que les lecteurs et mon éditeur ont ressorti les fouets et les menottes. Et donc, quand je n'avais pas envie de repasser les plans pour cette fois-ci, j'ai donc abdiqué au bout d'une semaine et demie. Donc, ce qui fait que voilà, j'ai enfin l'histoire, j'ai enfin l'intrigue, et donc il y aura un troisième tome. Il y aura plein de tomes après. Mais...
la suite de Johnny, quoi.
Alors bah, si cette première enquête de Johnny a plu au lecteur, une deuxième affaire sur laquelle il faut enquêter arrive en octobre ou novembre de cette année. Donc elle est déjà écrite, elle est en collection et elle paraîtra en tout cas au dernier trimestre de 2016.
Marie Brennan, je sais qu'il y a déjà les 5 volumes de Lenny Trent qui ont été publiés en anglais. Alors, est-ce que votre éditeur français a senti les fouets pour le pour la traductrice?
He came back with the whips for the translator, so we can get the next one quickly enough.
Le topic du second, le livre deuxième, en français en septembre. Français très bon.
Come on! Hey, vous avez compris là? Voilà!
This is where, like 5 days in France, I could put together one very bad sentence.
Voilà, après 5 jours en France, je peux vous faire une phrase en français qui est un peu pas terrible.
Nous sommes très admiratifs. Écoutez, il ne me reste qu'à vous remercier tous les trois de nous procurer autant de plaisir de lecture.